Bonsoir. Merci à la Maison de la Poésie et tout particulièrement à Olivier Chaudançon de me donner l'opportunité de recevoir Nathalie Azoulay ce soir. C'est pas mon métier, mais je suis très heureux donc, de la recevoir pour son dernier livre, son dernier roman qui s'appelle Python, qui est paru au début du mois de janvier. Nathalie ne sera pas la seule à participer à cette rencontre. Nous avons également Jacob et Marie, mais je vous les présenterai un petit peu plus tard. En tout cas, donc, merci Olivier, merci la Maison de la Poésie. Très heureux donc de... Et puis, bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci à tous. Donc, pour cette rencontre autour de Python. Nathalie, bonsoir. Tu as un micro ?
Bonsoir.
Ça va ? Tout va bien ?
Très bien.
OK. Je me suis rendu sur votre site. Vous avez un site, nathalieazoulay.com. Je me suis rendu sur Wikipédia. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on tape votre nom, quand on regarde un petit peu votre biographie ? Que vous êtes née en 1966, que vous êtes normalienne, que vous avez été éditrice pendant 10 ans au Seuil, la Martinière, et que cette année, en 2024, vous fêtez les 20 ans de l'apparition de votre premier livre, finalement. 2004, si je ne m'abuse. C'est bien ça, hein ?
Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est 2002.
2002.
Ah,
zut.
Ans,
ouais. J'ai failli être bien. D'accord. OK. Donc, ça fait 22 ans que vous publiez. Python est votre 10e roman. Et vous ne faites pas qu'écrire des romans, vous écrivez régulièrement des tribunes dans les grands journaux, comme Le Monde, par exemple, relativement régulièrement, une fois tous les 2-3 ans, une tribune
quand
qui fait mouche.
Prend. Pardon ? Ouais. Quand ça me prend.
Quand ça vous prend. Ouais. Vous donnez des conférences aussi, relativement régulièrement aussi. Vous avez publié des albums jeunesse, vous avez écrit des essais, notamment sur Ozu, un autre sur Proust. Des beaux livres. Vous avez écrit un beau livre sur Mad Men, sur la série. Mm-hmm. Plusieurs collaborations. Et vous êtes aussi membre du jury Femina depuis maintenant combien ? 2-3 ans ?
3 ans.
3 ans. Et donc j'avais une question à vous poser. Donc vous êtes ce qu'on appelle vraiment une écrivaine à part entière, presque peut-être à plein temps, je ne sais pas comment on dit. Mais est-ce que vous avez déjà exercé une profession, une activité qui ne soit pas liée à la littérature ou aux mots ? Dans toutes ces années.
Je ne crois pas.
Non, donc.
Non, mais ça me manque en fait. Je crois qu'il faudrait que je le fasse avant de mourir parce que j'aimerais bien connaître une autre façon de travailler. Mais en fait, si je réfléchis bien, non. Même quand j'ai été vendeuse, je vendais des livres et il y a très très longtemps. donc non.
D'accord. Donc ça justifie aussi peut-être. Et là, j'en viens maintenant au résumé de ce livre. Python, de quoi ça parle ? Ça parle d'une, alors c'est une autofiction, appelons ça une autofiction, on en parlera tout à l'heure, est-ce que c'est une autofiction, est-ce que ce n'en est pas une, mais a priori c'est écrit à la première personne du singulier, une femme qui se présente comme quelqu'un étant les deux pieds dans la cinquantaine depuis un petit moment, et qui se trouve dans une crise de confiance vis-à-vis de ce qu'il a toujours animé, c'est-à-dire la littérature, les mots, les gens... tout ce qui peut inspirer, déclencher l'imagination de l'écrivain, d'accord ? Donc elle traverse, elle arrive à un moment de sa vie. Donc c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez eu d'autres activités que la littérature. Donc elle est un peu dégoûtée, on va dire, un peu écœurée, dans un monde aujourd'hui qui ne fait que, je veux dire, où les livres se vendent de moins en moins. Dit-on, où le public vieillit, où la littérature devient, alors ça c'est très drôle, la littérature devient un artisanat, et Nathalie dans son livre parle de plus, ça devient un artisanat au même titre que, je sais pas, est-ce qu'on dit un plumacier, la plumasserie ?
Oui, la plumasserie.
La plumasserie et la glyptique.
La glyptique.
Alors, la plumasserie, c'est quoi ? C'est l'ornementation par des plumes.
Oui, c'est ce qu'on utilise en haute couture, et la glyptique, c'est l'art des pierres précieuses.
Voilà.
Donc
l'écrivain devient quoi ? Oui, un maréchal ferrant, enfin quelqu'un qui a, voilà, non, peut-être plus qu'un maréchal ferrant, c'est un artisan de luxe pour un public de plus en plus trié sur le volet, vous dites, hein, c'est bien ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer donc, traversant cette crise de confiance, elle va se tourner vers quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus impactant, pour utiliser un mot qu'on n'aime pas forcément, mais la notion d'impact sera importante, on y reviendra, qui est en fait ce qu'elle estime, c'est pas ce qu'elle estime, mais vers ce qui fait tourner les machines de ce monde. C'est l'expression qu'elle utilise. Qu'est-ce qui fait tourner les machines de ce monde qui nous permet d'avoir un ordinateur devant nous, un téléphone portable à disposition, d'avoir je sais pas, de la domotique à la maison, des appareils connectés un peu partout. Et bien, ce sont les codeurs, qui aujourd'hui sont un peu, disons, ces maîtres du monde. Et vous utilisez cette expression qu'on trouve chez Pierre Michon, parlant de Faulkner dans Corps du roi, pour ceux qui aiment Pierre Michon. Michon parle, en voyant la photo de Faulkner prise en 1936, je ne sais où, dans une ville d'Alabama, il dit, dans le regard de Faulkner, il y a celui qui a vu l'éléphant. C'est quoi l'éléphant? C'est le génie? Qu'est-ce que c'est? Celui qui a vu l'éléphant. Vous dites que les codeurs, aujourd'hui, les gens qui font tourner les machines, sont des gens qui ont vu l'éléphant. C'est quoi, ça?
Alors, je crois que quand Faulkner dit que... Michon dit que Faulkner a vu l'éléphant, et il le paraphrase juste après, c'est que l'éléphant recouvre toute une série de choses comme la mort, la guerre, le feu, etc. Donc c'est plutôt des choses qui sont de l'ordre du tragique, de l'énormité et du bascule d'une existence. Je pense que c'est ça. Pour ce qui est des codeurs, c'est pas qu'ils voient l'éléphant, c'est que je m'amuse avec cette notion d'éléphant qui est gigantesque. Donc il y a l'espèce de choses très très volumineuses qui a été au départ de l'informatique et qui est devenue aujourd'hui ultra miniaturisée et on sait très bien que tout tient en très peu de place dans nos machines. Et donc en fait, pour moi l'éléphant c'est comme un point de départ pour raconter cette histoire du code et des machines et de l'informatique en essayant de rendre compte de ce vertige qui a été cette miniaturisation et cette perte de volume. On est passé de pièces où les ordinateurs remplissaient des mètres carrés et des mètres carrés à des puces. Et donc, je me suis amusée avec cette notion de l'éléphant que j'ai empruntée à Michon, mais pour en faire un peu autre chose, pour la déplacer du côté en fait, de l'ordre de grandeur. On est passé dans des ordres de grandeur qui n'ont plus rien à voir. Et pour moi, c'est un peu une façon de polariser l'histoire de ces machines et du code.
L'éléphant est devenu un micron, en fait, hein, au sein d'une puce. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette écrivaine qui est en crise de crise existentielle, hein, quasiment? Eh bien, elle va se tourner vers de jeunes scientifiques de moins de 30 ans. Elle va chercher de jeunes gens qui vont lui apprendre, enfin, l'initier tout au moins... au code, on dit quoi, le codage, l'encodage, le code.
Le code.
Le code, qui vont l'initier au code, en tout cas les rudiments du code Python, parce qu'il y a plein de langages de code différents. Elle, pour des raisons, on va dire purement esthétiques, dit que Python, bah, c'est celui qu'elle veut apprendre, c'est pas JavaScript, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme...
Sharp, je sais pas.
Il y en a beaucoup.
Il y
a Shakespeare notamment qui s'écrit qu'avec des formules des bouquins de Shakespeare en fait. Les
mais
variables, les fonctions. Non, c'est pas nouveau, mais personne l'utilise parce que c'est pas très pratique quand même.
Mais pour être tout à fait honnête, ouais. Au début de ma recherche, j'ai demandé à Jacob, alias Boris, quel langage il fallait apprendre. Et c'est lui qui m'a dit va vers Python.
Python, parce que ouais. C'est lui qui. Il est utilisé notamment pour Google. C'est ça, c'est le code de Google, c'est Python, c'est ça?
Tout le monde l'utilise, je crois. Mais
tout le monde utilise Python et JavaScript encore plus, oui.
Bon, d'accord. Alors, ça dépend, en tout cas, voilà.
Mais JavaScript, il n'y avait pas assez de symboles derrière, ça m'inspirait
oui, c'est
rien,
ça.
En fait.
Python, on va découvrir, c'est beaucoup de choses. C'est la veste de Nicolas Cage dans Sailor et Lula. Veste prise, enfin, chez Marlon Brando, d'ailleurs.
Oui, c'est d'abord le film de Sidney Lumet, L'homme à la peau de serpent.
Et puis plein d'autres choses, on le verra tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle demande à trois jeunes gens de 30 ans, successivement, de l'initier au code Python. Et alors, ça va être l'occasion pour elle donc, d'en finir, entre guillemets, avec la littérature, tout au moins provisoirement, en se plongeant dans le code. Mais je voulais vous poser une question, Nathalie. Avant donc de continuer sur cette histoire de code, y a-t-il eu un âge d'or de la littérature? Si oui, c'était quand? Puisqu'on se plaint aujourd'hui, on se plaint. Je me souviens qu'on se plaignait aussi il y a 20 ans, les jeunes ne lisent plus, etc. C'était quand, en fait? Quand c'était bien, la littérature? Quand il y avait des lecteurs? Quand tout était merveilleux?
Mais je crois que la littérature est une vieille diva qui se plaint régulièrement d'une disparition imminente. Et d'ailleurs, quand elle le fait, et quand les volumes sont remplis de ça, ça devient un peu fastidieux et ennuyeux. Mais il y a quand même forcément une époque où ça a été mieux. C'est une époque, je pense, enfin... il me semble, où la concurrence fictionnelle était moins grande, et surtout où il n'y avait pas les images. C'est-à-dire qu'à mon avis, dès lors que le cinéma arrive, et derrière le cinéma, toutes les formes audiovisuelles qu'on connaît aujourd'hui et qui sont hyper populaires, je pense que le récit fictionnel qui passe par un livre et par les mots, seul, a du souci à se faire. Et en fait, on voit bien aujourd'hui que les jeunes n'ont pas du tout délaissé la fiction, au contraire, mais les supports ont changé. Et donc, si âge d'or il y a, c'est peut-être avec cette césure-là. Alors, ça a pris du temps, parce que le cinéma arrive au début du XXe siècle. Et durant le XXe siècle, il y a encore un prestige et disons, une surface de la littérature qui est très grande. Donc, peut-être que les formes mettent du temps à disparaître, je ne sais pas. Mais en tout cas, la concurrence qu'on a aujourd'hui et les supports, et surtout les canaux par lesquels ça passe et qui sont dans nos poches, font qu'on regarde plutôt un iPhone qu'un livre dans le métro.
Je ne peux pas résister à l'envie de vous lire un échange que j'ai eu avec Nathalie, c'était le 12 février, un échange de texto. Donc je dis à Nathalie, comment ça va le livre ? Nathalie me répond, ça va, mais c'est pas encore un best-seller. Je lui dis, c'est un livre d'auteur, quoi. Comme on parle de cinéma d'auteur. Nathalie me dit, bah oui, ça a plus grand sens aujourd'hui. Je lui dis, non. Elle me dit, et toutes les idées que j'ai pour d'autres livres, c'est du même tonneau. Je lui dis, il faut continuer quand même. Elle me répond, je sais. Je lui dis, on n'a pas le choix, il faut sauter de la tête toute idée de rencontrer le succès. Espérons juste qu'un jour, on insistera à un retour naturel de l'exigence. C'est pas cyclique, ces choses-là ? Je lui demande, et elle me répond, on sera trop vieux. Voilà, donc je voulais vous le partager, comme on dit. Et donc, est-ce que, ben justement, j'en profite, est-ce que quelqu'un, un auteur de best-seller, tiendrait ce discours ? Est-ce que pour lui, vous faites la différence entre impact, l'impact du code, et on va dire, la grande chimère du roman ou de la littérature, au moins le code ça a de l'impact parce que ça change la vie de centaines de millions de gens. Est-ce que quelqu'un, un auteur de best-seller, pourrait dire que la littérature c'est fini, que ça n'a pas d'impact? Parce que vous dites cette phrase assez marrant, est-ce que Bill Gates a plus ou moins d'impact que Proust? Donc voilà.
Mais c'est clair et net qu'il en a plus. Ouais. Je crois que la notion d'impact, en fait, elle appartient aux scientifiques. Alors, les codeurs, mais avant eux, je ne sais pas, tous ceux qui ont fait des découvertes scientifiques, ont changé les habitudes et les pratiques du monde. Aucun art n'a pu faire ça. Alors, ça change les imaginaires, ça change, ça modifie les sensibilités, ça peut avoir des altérations intimes, intérieures, mais ça ne change pas le monde. Et donc, c'est vrai que quand moi j'ai commencé à regarder un peu de près toute cette révolution technologique, je trouvais le mot impact, mais toutes les trois lignes en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent tous en avoir. Et je suis sûre que Jacob aussi. Et donc, alors on est un peu hérissé quand on est littéraire, on n'aime pas du tout ce mot impact, parce que maintenant il est utilisé à toutes les sauces.
Impactant.
Ouais, impactant. Mais il n'empêche que si on doit faire deux colonnes avec que les arts modifient en général et le tribut qu'ils donnent aux artistes et de l'autre côté ce que les scientifiques changent et le tribut que ça leur donne, eh bien en effet les artistes bénéficient de la gloire parce qu'il y a ce narcissisme de l'artiste et cette célébrité et le fait qu'il est très exposé mais personnellement. Alors que les scientifiques, voilà, ce sont leurs découvertes et leurs produits et leurs machines qui sont utilisées et qui sont glorieuses. Mais c'est vrai que quand j'arrive dans ce monde-là, je me dis tout de suite, bon, bah voilà, il y a deux mots, il y a deux notions qui sont. Je ne pense pas qu'un scientifique ait envie de gloire.
Et, on parlera tout à l'heure avec Jacob. Hein.
Oui, parce que la science est reliée à l'action, ce que n'est pas l'art. Et donc, c'est vrai que j'ouvre ce paradigme, cette différence, et ça polarise encore une fois toute ma confrontation.
Alors, on va arriver un petit peu au cœur, donc maintenant du roman, à commencer. Donc, vous avez devant vous, Nathalie. Donc, j'en profite pour vous le montrer. Vous connaissez ça par cœur, puisque c'est vous qui l'avez composé. Alors, il s'agit d'un mur. Alors, pour ceux qui ont vu la série Homeland, c'est ça, hein, c'est Homeland. Il y a à l'intérieur l'un des personnages principaux. Enfin, moi, je l'ai pas vu, donc c'est une
enquête. Le personnage principal.
Carrie
Mathison.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Carrie Mathison? C'est une enquêtrice, profileuse, qui a besoin pour ses enquêtes.
Enfin, elle travaille pour la CIA, ouais. Et donc elle travaille pour le renseignement, et elle doit mettre la main sur un agent double qui travaille pour les États-Unis, mais aussi pour le terrorisme islamiste. Et donc, elle compose un tableau qu'elle défait régulièrement. En fait, elle a une particularité, c'est qu'elle est bipolaire. Donc, elle est prise d'impulsions très, très violentes. Et donc, elle balaye tout et puis elle replante tout parce qu'en fait, son tableau, à elle, est en Liège. Et donc, elle punaise ces images. Et puis, parfois, ça devient comme dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, c'est-à-dire qu'on n'y voit plus rien. C'est complètement surchargé, baroque, illisible. Et donc, elle nettoie régulièrement. Et c'est vrai qu'au démarrage de ce livre, je me suis dit, bon, bah, je vais me prendre pour Carrie Mathison. Et comme je ne comprenais pas ce que je cherchais vraiment, la grosse question que pose ce livre, c'est comment ça marche ? Et donc, comme c'est très difficile de répondre simplement à cette question, je me suis dit, bon, je vais coller sur un mur qui était magnétique. J'avais la chance d'avoir des aimants, des images qui vont être un peu mes jalons. Et puis, ça va me faire faire mon parcours. Ça pourra me donner aussi une marge de changement, puisque je peux revenir, tout est réversible. Mais je vais me raconter l'histoire telle qu'elle s'impose jour après jour, en laissant agir mes associations d'idées. Librement. Et c'est vrai que ça m'a aidé pour la première fois, en fait, à composer le livre d'une manière qui, finalement, est assez simple. Hein. Mon livre, il est chronologique. On passe d'un personnage à l'autre et il n'y a pas...
Une référence à l'autre, surtout.
D'une référence à l'autre.
Scientifique, artistique,
oui.
À part à peu près égale.
Oui. Alors, je respecte la chronologie, grosso modo, de l'histoire de l'informatique, avec, encore une fois, des jalons qui remontent au début du siècle. Mais je me permets des tas de croisements que mon tableau autorise, en fait, et un paysage qui est finalement très, très bigarré, très contrasté, et qui est aussi un peu... qui est profondément associatif. C'est-à-dire que parfois, il y a des causalités qui sont difficiles à suivre.
D'où ces lignes bleues, là, qui relient. C'est pas du tout...
Oui, vaguement, hein. Vaguement, tout ça
est
assez peu rationnel,
alors,
vaguement.
Alors, moi, je vais m'amuser pendant cette séance à vous faire réagir, Nathalie, sur... des détails de ce tableau que vous avez donc composé, qui a été recréé numériquement, mais il a été sur le mur de votre bureau. Alors, allons-y, par exemple, sur celui-ci. Oh là, alors, qu'est-ce que c'est, là ?
Ça, c'est une Nathalie, boîte de
là,
nuit homosexuelle.
Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait dans votre livre, ça, ce...
Ah, bah voilà, bah, ça, on prend les choses par la fin, mais ça rejoint quand même la salle où j'imagine des codeurs où il y a très peu de filles. Et c'est une façon d'érotiser tout de suite le chemin. Mais cette image, je l'ai trouvée très tard. Et j'ai vu, en effet, une manière d'être un homme avec des hommes sans aucune femme. Et cette sexualité homosexuelle mâle, enfin masculine, je ne sais pas comment la qualifier, est la deuxième partie de mon livre. C'est-à-dire que avec ce tableau, enfin le tableau, en fait, ce que ça m'a surtout aidé à faire, c'est à diviser ma recherche en deux, ou en tout cas à faire advenir une deuxième partie, qui est une partie plus personnelle, plus intime, plus biographique aussi, qui n'a plus grand-chose à voir avec le code, mais qui a à voir beaucoup avec les garçons entre eux. Et c'est vrai que le code, c'est aussi des garçons entre eux,
reviendra, oui.
Alors qu'ils sont habillés, qu'ils ne sont pas en train de danser, qu'ils sont chacun dans leur bulle et devant leur écran. Mais quand on est une femme, en plus quand on est plus âgée qu'eux, et qu'on arrive là-dedans, c'est... On ne peut pas ne pas se poser la question de ce que c'est que cette coprésence masculine, adolescente souvent, ou en tout cas jeune, qui a forcément, où il y a forcément des corps, des hormones, etc., et qui sont comme figés, prostrés, immobilisés par la machine, mais que si on a un imaginaire, et quand il est un peu romanesque, évidemment, infuse là-dedans beaucoup d'autres choses.
Donc on remarquera que vous avez voulu vous débarrasser de la littérature en vous plongeant dans le code, mais néanmoins, c'est quand même des figures humaines qui retiennent votre attention, les comportements. Mais néanmoins, je vais revenir quand même sur l'aspect scientifique du livre. Alors, on vous découvre une fascination pour les ordres de grandeur, les chiffres. On apprend par exemple plein de choses. On sait que le plus long câble de télécommunication de la Terre fait 52 000 km de long. On sait que si on réduit ce qu'on appelle le big data, toutes les données accumulées depuis que l'informatique existe, qu'on en fait des piles de CD, il y a trois piles qui vont jusqu'à la Lune, de la Terre à la Lune. Si on en fait des livres, c'est 52 étages qui couvrent tout le territoire américain, des gratte-ciels de 52 étages, c'est ça, hein ? Et alors, vous êtes fasciné par tous ces chiffres. On sait qu'il y a 2 milliards de lignes de code pour Google. Voilà, on apprend ce genre de choses. Et moi, je voulais vous demander... Donc,
Juste une chose, c'est que en fait tout ça m'épate parce que c'est invisible.
Bah oui, c'est
voilà, en fait c'est ça, c'est qu'il y a des volumes et des volumes et des volumes.
C'est l'éléphant là.
Mais on ne voit rien. Ouais. Voilà. Donc,
Et alors je vais vous demander, Nathalie, donc c'est pas la première fois que vous tournez vers la science. Dans votre livre, roman précédent, il y a 3 ans, La fille parfaite, il y avait parmi les 2 héroïnes une scientifique et une littéraire. Je voulais savoir, est-ce que vous vous souvenez de ce qui a fait l'objet de votre première fascination pour la science ? Je ne sais pas, quand vous étiez petite fille ou ado. Est-ce qu'il y a un acte, une pensée, une imagination inaugurale de cet intérêt pour la science chez vous ?
Non, je sais qu'en 5e, je voulais faire de l'astrophysique. Ça, je le sais. Et je me souviens que j'avais eu ça en tête et que ça m'avait accompagné quelques années. Mais je ne vois pas de moment inaugural, je ne vois pas d'événement marquant, je ne vois rien de tel. J'ai pas assisté à une découverte particulièrement, je sais pas, l'homme sur la lune, tout ça, moi j'y étais pas et je m'en fichais éperdument. Donc je pense que c'est plus un trajet intime et personnel et même pas très conscient en fait, sauf que je voulais faire de l'astrophysique. Ensuite l'astrophysique est tombée. Il se trouve qu'au-dessus de moi, j'ai un frère qui a fait de la médecine, donc je pense que j'étais un peu sous couvert de ça. Et puis, il se trouve que pendant mes études, j'ai toujours aimé les maths, enfin voilà. Donc, et j'étais partie pour faire plutôt un parcours scientifique. Et puis, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, bon, on va faire des classes prépa littéraires, et je suis allée avec eux. Mais disons que c'est un univers dont je trouve dommage qu'il n'existe pas assez en littérature. Et dont je trouve dommage aussi que les littéraires ne s'y intéressent pas assez. Et je ne supporte pas en fait cette scission entre les mondes. Et je ne sais pas, on peut repartir vers Pascal. Et l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie, pour moi, on doit passer de l'un à l'autre sans arrêt. Il se trouve que j'ai parmi mes amis pas mal de scientifiques. Et que je trouve que c'est beaucoup plus riche de parler avec des gens qui réfléchissent différemment, qui ont le sens de l'abstraction, parce qu'ils ont le sens de l'abstraction, et que moi, ça me nourrit, en fait. Ça nourrit mon esprit de finesse, mais aussi mon esprit de géométrie. Et voilà, sans doute, j'ai un rêve de complétude complètement fou que je n'atteindrai jamais, mais je n'ai pas du tout envie de renoncer à ça.
Alors, ce qui est amusant, c'est que, au bout du compte, dans ce livre, vous voulez vous initier au code, mais vous n'en savez pas beaucoup plus à l'arrivée. Vous avez... c'est plus, je dirais, une démarche d'esthète. Et alors, ce qui est assez marrant, alors moi, j'ai relevé 2 occurrences de ce que Nathalie atteint en termes de compétences de codeuse. Alors d'abord, c'est pas du Python, c'est de l'Unicode. C'est la première phrase de La recherche du temps perdu, Longtemps je me suis couché de bonheur. Quand on la traduit en Unicode, ça donne 4C, 6F, 6E, 6-7, 7-4, 6-5, 6... Non, 65, 6-D. Je vous la fais pas, mais il y a un codage par lettre, donc voilà. Et un truc qui est beaucoup plus drôle, alors ça va nous agiter un petit peu, parce que ça fait partie des sujets qui fâchent ou qui réjouissent au choix. Vous tentez un moment avec l'un des jeunes codeurs que vous rencontrez, qui s'appelle Enzo, vous tentez de vous mettre à un roman à 4 mains avec Enzo, qui est donc un jeune codeur, avec l'assistance de ChatGPT. D'accord ? Et là, vous rentrez des mots-clés pour essayer de créer ce roman. Et parmi les mots-clés, il y a quoi ? Il y a codeur et femme mûre. Voilà. Qu'est-ce que ça donne quand on demande à ChatGPT de faire un roman à partir de codeur et femme mûre? Ben, ça donne la chose suivante. Au fil du temps, Alex et Caroline, c'est le nom des héros, Alex et Caroline ont commencé à passer plus de temps ensemble, explorant la ville et discutant de leurs intérêts mutuels. Ils ont découvert qu'ils avaient beaucoup en commun malgré leurs différences d'âge. Caroline était fascinée par la passion et l'ambition d'Alex pour la programmation, tandis qu'Alex admirait l'expérience et la sagesse de Caroline. Cependant, leur relation a rapidement été mise à l'épreuve par les préjugés sociaux et les critiques de leurs amis et collègues. Certains ont vu leur relation comme inappropriée en raison de leurs différences d'âge, tandis que d'autres ont cru que Caroline utilisait Alex pour son propre plaisir.
ChatGPT est américain. Il est américain, ChatGPT.
Voilà,
il est politiquement correct et il est un peu plat encore sur le plan littéraire.
Alors, je voulais vous faire réagir à cette phrase. Éric Chevillard, que vous connaissez certainement pour la plupart d'entre vous, tient un blog donc, depuis 15 ans qui s'appelle L'Autofictif. Et le 24 février, il a écrit cette entrée que je voudrais vraiment vous lire. L'intelligence artificielle est déjà capable de générer des textes de qualité. Mais cela, nous savions le faire. J'attends d'elle beaucoup plus la création d'un lecteur sagace, infiniment reproductible. On est, voilà. Alors, je continue avec mes petites photos. Freddie Mercury, le mur. Qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi est-ce que ça ne marche plus?
Excusez-moi, j'ai un petit problème de... Zut. Pardon, on va aller au hasard là-dessus, par exemple. Qui est ce monsieur ? Oh mince, excusez-moi, j'ai... j'ai un bug. Bon, je voulais que vous me parliez, Nathalie, notamment, peut-être de le monsieur qu'on voit là. Il y a l'araignée.
Là, c'est John
von Neumann.
John von Neumann.
Alors, c'est qui, ce monsieur ?
Alors, moi, je l'aime bien parce qu'il a cette tête de, je ne sais pas, on dirait un clerc de notaire ou un vieux monsieur des années 50. Il est habillé en costume avec une cravate. Ouais. Il n'a pas du tout une allure de, ni d'ingénieur, ni encore moins de codeur. Voilà. Et pourtant, il a été décisif, d'après ce que j'ai compris, pour tout ce qui est de l'architecture informatique moderne. Et il a transformé, en fait, la donne. Et il a fait partie aussi de l'équipe de Los Alamos, donc il a travaillé avec Oppenheimer, etc. Bon, c'est un esprit qui vient d'Europe, de la Mitteleuropa. Il est juif hongrois d'origine. Évidemment, il quitte l'Europe à la fin des années 30. Il va s'installer aux États-Unis, et comme beaucoup d'autres. Et c'était un esprit que les Américains appellent polymathe, c'est-à-dire il pouvait à la fois vous réciter l'Odyssée en grec et puis résoudre des problèmes de maths faramineux. Donc voilà, c'était un
mauvais
esprit
enseignant,
complet.
Il parlait trop vite, hein, c'est
alors
ça
il parlait trop vite. Non, c'est pas qu'il parlait trop vite, c'est qu'il effaçait ses tableaux trop vite. Et donc les élèves n'avaient pas le temps de noter.
Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est après avoir écrit ce livre, donc vous êtes plongé dans l'univers du codage. Vous êtes allé à l'école 42 d'ailleurs, qui se trouve je ne sais où, mais qui a été créé par Xavier Niel. C'est bien
ouais.
Ça. Où il y a que des codeurs, mais il y a pas de prof. On vient ici pour de l'émulation. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne.
Non, c'est un système d'entraide. En fait, c'est les codeurs, les élèves entre eux qui s'aident à résoudre les problèmes. Et il y a aucun enseignement vertical.
Alors, je voulais savoir si, au terme donc, de cette expérience parmi les scientifiques, les mathématiciens, les codeurs, est-ce que votre intérêt pour cet aspect-là de la science est resté intact, ou est-ce que c'est retombé comme un soufflet ? Et est-ce que ça a changé votre regard vis-à-vis de la littérature ? Est-ce que vous y êtes revenu, je dirais, avec des encore plus dubitative que vous ne l'étiez en y arrivant, ou ça a renforcé quelques certitudes que vous aviez ? J'ai l'impression que Vous savez où est votre place à l'issue de cette expérience.
Ah oui,
la littérature.
Mais j'ai jamais douté de là où était ma place, mais c'est aussi la raison pour laquelle je regarde ailleurs. C'est à la fois pour confirmer. Enfin, je crois que c'est des ruses inconscientes que j'utilise au départ pour d'évaluer mon objet, le démonétiser, et puis le confronter à un autre, et puis lui rendre un peu de valeur. Sans doute aussi parce que je me rends compte que ma compétence est très limitée et que je ne pourrais pas faire autre chose. Mais en fait, ce qui m'a intéressée, je ne crois pas que ce soit retombé comme un soufflet. Alors, j'ai arrêté.
Pardon, je suis désolée.
Non, mais oui, ce n'est pas retombé comme un soufflet. Ce qui m'intéresse, c'est quand j'entends les lecteurs me dire « Ah, mais je ne savais pas que tout ça existait. » Bon, que ça a éclairé un tout petit peu cette espèce de flotte graphique souterraine, qui n'est pas souterraine, mais qu'on peut se représenter comme ça, qui fait que le monde marche comme il marche aujourd'hui. Donc j'aime bien que les gens aient un peu plus conscience de tout ça. Et puis, pour ce qui est de ma part, à moi, c'est que, sans doute, j'ai apprivoisé un peu le vertige. Alors, pas complètement, et je pense que si Jacob me raconte ce qu'il fait au quotidien, le vertige va reprendre. Mais disons que ça a un petit peu calmé les choses. Et j'aime bien, quand je suis prise de panique, comme ça, faire en sorte que ça se réordonne un tout petit peu, ça se tasse. Et je pense que ce livre m'a aidé à faire ça. Mais c'est vrai qu'au sortir de ce livre, je n'en sais pas beaucoup plus, un tout petit peu plus, mais très peu, et que je reviens avec bonheur vers le roman.
Ah. Tout est presque pour le mieux dans le presque meilleur des mondes. Léni, s'il te plaît, peux-tu envoyer une petite séquence très rapide, vous allez voir.
This house and this team are great. It's exactly what it should be. I'm Sean Parker.
Oh, he's wired in.
That's what I'm talking about.
Merci. Alors, pourquoi est-ce que j'ai... Donc, vous avez peut-être reconnu un extrait du film qui s'appelle The Social Network, de David Fincher. Et il y a cette fameuse phrase à l'intérieur. Vous avez donc Justin Timberlake qui joue le rôle du créateur de Napster qui s'appelle Sean Parker, c'est ça ? Donc, qui vient voir Mark Zuckerberg, qui est interprété par Jesse Eisenberg ici. Il arrive dans la maison où il y a tous ces... En ébullition, là, parmi tout un tas de geeks, de geeks en train de bosser sur leur... Et Sean Parker donc, essaie de saluer ce jeune homme qui est derrière son ordinateur en lui disant « Bonjour, je suis Sean Parker » et le jeune homme ne veut pas le regarder. Et il y a cette fameuse phrase de Mark Zuckerberg qui dit « He's wired in », c'est-à-dire il est intégré à la machine, il est dans le circuit de la machine, il ne peut pas te répondre, il n'est pas disponible, il est dans un état de concentration absolu. Et alors, vous dites cette chose dans le livre, donc vous citez cette phrase de Mark Zuckerberg, et vous avez cette fascination qui est un peu l'un des fils rouges de ce livre pour les jeunes garçons codeurs. Alors pourquoi les jeunes garçons ? Python rime avec garçon. Il y a chez eux une absorption par l'action qui n'est pas, me semble-t-il, celle des filles. Nathalie Azoulay, êtes-vous misogyne ?
Non, mais j'ai remarqué quand même que... Alors moi, je n'ai pas eu de fils. Et mes frères étaient trop grands pour que je les voie grandir. Donc je ne sais pas ce que c'est qu'un jeune garçon absorbé. Donc sans doute, je les fantasme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'un garçon, et en particulier un codeur, ça peut rester des heures, jour et nuit... concentré d'une manière que moi je n'éprouve plus jamais, c'est-à-dire j'ai perdu la concentration que j'avais quand j'étais jeune et je pense qu'elle n'était même pas aussi forte, et j'ai le sentiment que les filles, alors certes quand elles jouent, quand elles sont enfants, etc., elles sont absorbées, mais que c'est quand même très masculin. Alors on va me dire que c'est hyper genré ce que je dis ou même sexiste. Et sans doute que les filles, peut-être, on leur disait « viens mettre la table », je ne sais pas, et qu'elles ne pouvaient pas se concentrer plus longtemps. Bon, j'y crois pas totalement à cette idée. Mais j'ai l'impression quand même que... alors, vous me direz, quand vous allez dans une salle à 42, il y a des filles qui codent, et sans doute, elles sont aussi concentrées que les garçons. Mais d'abord, il y en a très peu. Et puis, alors, je ne sais pas, il faudrait peut-être demander...
Justement. Alors, il était indiqué sur l'invitation, enfin, sur l'intitulé de cette soirée, qu'il y avait donc... Nathalie Azoulay et des personnages de Python. Alors, on vient de parler de ces garçons concentrés, on en a un ici, enfin qui est supposément en tout cas. C'est dans le livre, il s'appelle Boris, ou alors, voilà, il est supposé s'appeler Boris si Jacob est Boris, mais en tout cas Jacob, bonsoir. Donc vous êtes codeur. Je vais lire ce que vous m'avez envoyé pour vous présenter vous-même. Vous m'avez dit, donc vous êtes entrepreneur dans la tech et chercheur en mathématiques fondamentales jusqu'en 2022. Les domaines tech dans lesquels vous exercez actuellement sont la cybersécurité et la blockchain. L'activité que vous pratiquez au sein de votre propre entreprise est celle de White Hat Hacker. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est que les clients vous demandent de hacker leur code, c'est-à-dire de trouver toutes les failles pour qu'ils puissent les réparer. Vous n'êtes pas animé de mauvaises intentions, vous ne voulez pas aller tirer l'argent que les gens ont sur leur compte en banque sur les 5 continents. Alors, Boris, avant de vous donner la parole, je vais lire le passage qui vous correspond dans votre livre, qui est censé vous correspondre. Donc, portrait de Boris, page 10. Boris est inoubliable. Environ toutes les 10 secondes, mes yeux le cherchent. Ses cheveux lui mangent tout le front. Ses joues se sont légèrement creusées. Ses yeux scillent à peine. Seuls ses doigts bougent. Il code. Je le regarde comme on regarde une célébrité en chair et en os, mine de rien, du coin de l'œil, mais avec intensité comme pour découvrir un reflet spécial sur sa peau. Le secret de sa gloire, vérifier qu'elle est à la fois différente et commune. Je fais en sorte qu'on ne remarque pas mes regards. Des pensées honteuses me traversent en fixant ses doigts agiles, si rapides sur les touches. Je suis suspecte à mes propres yeux, je ne me reconnais pas. Quand le jeune écrivain rêve de gloire, Boris rêve d'impact. Jacob, vous reconnaissez-vous dans ce portrait ? Est-ce que c'est vous ?
Vous parlez à Jacob ou Boris ?
Je parle à Jaris.
Non, mais je reconnais effectivement Bon, d'abord, bonjour à tous. Et merci Nathalie, parce que j'ai beaucoup appris, même sur le code, dans ce livre. Ce que je reconnais, c'est effectivement le flow dont on peut faire preuve quand on est fasciné par un objectif, un problème à résoudre. Mais ce n'est pas forcément du code, ça pourrait être n'importe quel sujet, même mathématique. Et en fait, il y a quelque chose qui saisit et on ne peut plus s'empêcher d'aller le chercher, d'aller le trouver. et tout le reste devient superflu à côté, en fait. Et ça peut être partagé. Il y avait eu cette histoire de garçons qui vivent quelque chose ensemble avec des hormones, peut-être une certaine ambiance. Et c'est vrai que ça, je m'identifie pas mal, puisque en réalité, les moments où j'ai pris le plus de plaisir à faire des mathématiques ou du code, c'est quand en fait on était au café avec un groupe de 10 garçons, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui part, et c'est à qui va trouver l'énigme le plus vite, c'est à qui va réussir, à qui va se tromper, à qui on va donner un gage s'il se trompe. Donc cette notion de flow, je m'identifie totalement, mais je pense que je peux la voir aussi totalement chez des littéraires que je croise au café et dont je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et ça me fascine un petit peu en fait. Quand je comprends
pas. Vous pouvez établir une analogie entre la qualité de fascination qu'un littéraire a pour le monde scientifique, comme Nathalie. Ça peut marcher dans l'autre sens aussi ?
Absolument, ça m'est arrivé ce matin même. Donc j'étais au café à côté de chez moi pour travailler, je fais souvent ça. Et bon, un café où tout le monde boit, mange des avocats d'autos, font des choses banales. Et au fond, on a 2 personnes. Donc on a moi d'une part avec un casque wired in, qui de temps en temps fait des gestes un peu genre « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» De parfois est surpris parce qu'il y a une faille dans le code, ou alors qui essaie de modéliser mathématiquement. Il y a de la joie quand je trouve quelque chose d'agréable. Et à côté de moi, un littéraire avec une muraille de livres, donc littéralement 15 livres comme ça, et qui, il y a des trucs, c'est un bordel pas possible. Il y a 50 onglets ouverts sur l'ordinateur. Et lui aussi fait des gestes comme ça. Oh non, comme ça. Et donc en fait, on est tous les deux des uluberlutes au fond en train de faire ces gestes. On ne communique pas, on est de 2 mondes opposés, mais en réalité, on est les 2 plus proches de la salle dans 2 disciplines qui n'ont rien à voir.
Je vous ai demandé, Jacob, donc, de choisir un passage de ce livre que vous allez lire maintenant. À l'issue donc vous allez lire, et après l'avoir lu, je vous ai demandé de préparer 2 questions pour Nathalie. Donc, elle ne sait pas du tout à quelle sauce elle va être, je ne sais pas, dégustée. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous voulez bien lire, donc, il s'agit du portrait d'un scientifique qui s'appelle, si je ne m'abuse, attendez, j'arrive tout de suite. Il s'agit de Douglas Crockford. Et donc, vous avez... c'est un passage qui a retenu particulièrement votre attention, vous nous direz pourquoi, avant de poser vos questions à Nathalie. On vous écoute.
Alors, Douglas Crockford est un programmeur, un entrepreneur et un auteur de textes fondamentaux sur le langage dont il est devenu le spécialiste, JavaScript. Jusque-là, rien de particulier. Dans une vidéo, il dit que les codeurs passent apparemment leur journée à taper sur un clavier, mais qu'en vérité, ils contemplent l'abysse en se demandant quoi faire ou comment rectifier ce qu'ils ont fait. Il mime la scène, des doigts qui galopent, un visage tendu qui fixe un écran, le corps coupé en 2. Le codeur est un centaure. Quand on va sur le blog de Crockford, on découvre qu'il se mêle aussi de grammaire, de linguistique, de philologie. On y trouve des entrées comme alphabet, pronom, l'avenir du texte, haïku, lettres muettes, éléments de style. Tout n'est pas passionnant, mais ce qui frappe, c'est le démon de l'efficacité et de l'économie qui hante toutes ses réflexions et ses propositions. Il chasse la perte de temps, l'hésitation, l'ambiguïté. Pour lui, un signe est un signe au sens où il doit désigner une chose claire et nette, éviter à l'esprit d'hésiter entre plusieurs possibilités, traquer l'inutile, préférer l'uniformité, la règle implacable, à l'exception. Il propose, par exemple, de supprimer de l'alphabet anglais les lettres C et Q qu'il trouve superflues puisque le K et le S suffisent à en produire tous les sons. Il relate l'histoire du pronom I, le jeu anglais, dénonce son aberration, suggère sa disparition au profit de mi. Il propose que toutes les consonnes se prononcent sur le modèle de bi ou si, qu'on dise mi et ni et si au lieu de M, N ou S. On pourrait aussi se passer du X puisque K et S qui combinés produisent les mêmes sons. Il voudrait rebaptiser les jours de la semaine, que Monday devienne Wednesday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Thursday, jusqu'à Sunday qui devrait être Seventh Day, le tout abrégeable en 1D, 2D, 3D, etc. Tout est à l'avenant, intelligent et agaçant de ce genre d'intelligence âpre, acide qui fait grincer les dents, racle le fond de l'assiette à la fourchette. On est à la limite de la dystopie, celle d'un monde clair et net, mais on déplore aussitôt l'absence de la lune derrière Monday, la silhouette du dieu Wooden derrière Wednesday, ou l'éclat du soleil dans Sunday. Je pleure la disparition des créatures et des ombres. Je déteste ce Crockford qui ne fait que ranger la maison encore et encore. Je trace une croix sur son visage comme sur celui d'un suspect qu'on écarte. Tu ne trouves pas qu'il nous fait mieux comprendre ce qu'est une langue, me dit Margot. Non. Une langue est faite de règles et d'exceptions, dis-je d'une voix cassante. C'est vrai, le code ne tolère aucune exception quand on y pense. Quand on y pense, eh bien quoi ? On devrait fuir, être encore plus attiré, je ne sais pas ce que Margot veut dire et je ne suis pas certaine d'avoir envie de le savoir. Soudain, ça me reprend, je voudrais tout jeter, le code, la rationalité, tout, j'ai envie d'être poète, déjanté, visionnaire, de chanter sur scène, comme au hasard de la chanteuse Camille, que jaillissent des sons, des percussions, des cris. Je voudrais vivre dans une troupe de théâtre ou auprès de Marion toujours. Je me lève, je suis exaspéré, j'ai envie que Margot s'en aille, l'amour lui a tourné la tête. Mes nuits sont pleines de rêves. Dans l'un d'eux, Margot et Boris se chamaillent.
Margot déclare que l'algorithme ne chopera jamais le style de Proust. Boris Trican, personne n'aurait pu prédire il y a 30 ans tout ce que ferait l'algorithme aujourd'hui. Un jour, il attrapera Proust dans ses filets. Mais vous, les littéraires, vous avez toujours besoin de vous rassurer face à la science et à la machine. Ça vous honore, mais vous avez souvent tort, dit-il en embrassant Margot à pleine bouche. Mes nuits sont crémeuses comme jamais, de vrais cappuccinos où je tourne mon lise. Donc tu es au méandre où j'ai du mal à m'extraire, je me réveille en nage. Au matin, je suce des bâtons de réalité secs, quand la nuit, je mangeais des fleurs et des baisers. Pour en finir avec cette indolence, j'écris à Margot. Je lui demande de consacrer la prochaine séance à des éléments de syntaxe pur et dur. Entendu, dit-elle. Mais une heure avant, elle m'écrit qu'elle couve quelque chose. Boris va la remplacer, elle est vraiment désolée. Je panique. Je ne veux pas être seule avec Boris, je préfère annuler. Mais Margot répond, trop tard, il est déjà en route.
Merci beaucoup. Juste avant de... Lénie, est-ce qu'il est possible... Merci. Juste avant que vous posiez vos questions, je voudrais que Nathalie réagisse. Alors oui, lui là, Nathalie, c'est qui? Oh là là, excusez-moi, je... Non, pas lui, on connaît. Lui. Attendez, j'arrive, par exemple...
À gauche ?
À gauche, ouais.
Alors à gauche, c'est Guido van Rossum, le créateur de Python. Et à droite, c'est Steven Cronenberg.
Soderbergh.
Et donc, je me suis amusée à placer comme ça des visages pour essayer de voir s'il y avait un ethos, je ne sais pas comment l'appeler, un faciès d'ingénieur et de scientifique de ce type-là. Et en fait, c'est très probant, je trouve, ces deux images, parce qu'on voit tout de suite qui est l'artiste et qui est l'ingénieur. C'est la forme des lunettes. À gauche, je ne pense pas qu'il fasse des films.
En tout cas, il a eu...
En tout cas, c'est le créateur du langage.
Ce qui est fou, c'est que... c'est le créateur du langage Python, donc qui est un des langages les plus utilisés. Nathalie lui envoie un mail, il lui répond dans les deux heures, et ils ont comme ça une correspondance.
Je lui écris souvent d'ailleurs, et il me répond toujours. Là, il s'est débrouillé avec Google Translate pour lire le livre, et il m'a dit que tous les passages qui le concernaient lui avaient donné les larmes aux yeux.
On revient à Jacob. Jacob, alors donc, vous avez choisi ce passage où il y a Douglas Crockford qui a été barré. Hein. Il faut le montrer qu'il a été barré parce que où est-ce qu'il est barré? Là, regardez, il y en a un qui est barré là-bas en bas à gauche, c'est lui, c'est Douglas Crockford là. Donc, pourquoi ce passage? Et qu'est-ce que vous avez demandé à Nathalie alors?
Ce passage, pour moi, il cristallise vraiment des éléments très intéressants du livre. Et ce qui m'intéresse, c'est un peu l'évolution que tu as vis-à-vis du codeur au fur et à mesure. Et il y a trois états. Pour moi, le premier état, c'est un peu évidemment la crainte, un peu la distance par rapport au codeur, la différence, parfois même un peu de haine par rapport à ce côté implacable et rationnel, comme on a pu voir. Ça, c'est une chose. Mais en fait, la chose qui m'intéresse plus, c'est en fait la fascination, un petit peu cette curiosité qu'il y a. Et si on prend Python, le titre, bien qu'il ait été nommé après les Monty Python, je crois, Python, à l'origine, c'est un serpent géant que Apollon terrasse pour installer la Pythie à Delphes. Et on voit dans cette référence mythologique qu'en réalité, à cette époque, les hommes côtoyaient des créatures supérieures, mais de manière très proche, et avaient beaucoup d'admiration et de fascination pour ces créatures supérieures. Donc il y a la Pythie, mais il y a les devins, il y a les magiciennes, comme Circé, Médée, Calypso. Et même dans la Méconnée, les dieux côtoient les hommes presque chaque jour. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette fascination, cet intérêt que l'homme a pour sa propre, les êtres qu'il imagine et les choses qu'il crée et qui n'existent pas. Et on renoue aujourd'hui avec ça de manière constante, avec les jeux vidéo, la science-fiction, mais aussi ces intelligences artificielles qu'on est capable de créer. Et je pense qu'il y a une vraie connexion par rapport à ces intelligences artificielles qui peuvent être créées, notamment il y a eu un prix Nobel de littérature pour... Clara et le soleil, où l'héroïne est une intelligence artificielle dont les sentiments sont fascinants, différents, mais fascinants. Donc ça, c'est la deuxième partie que je trouve très intéressante. Et à la fin, ce que je trouve le troisième état, c'est finalement, il y a un peu une sorte de réconciliation dans cette fin de roman, d'apaisement par rapport au fait qu'en réalité, le codeur n'est pas un être surnaturel, ça reste un être humain aussi. Et dans le personnage d'Enzo, on renoue avec quelque chose qui est très familier au passé de l'héroïne, puisqu'il ressemble d'une certaine façon à Simon. Et donc, on retrouve une identification. Et donc ça, c'est un peu ma première question, c'est est-ce que cette identification, je me l'invente, ou alors est-ce qu'il y a vraiment dans le fait de coder, tu as pu trouver après ton expérience quelque chose, une démarche artistique Tu parles du codeur qui contemple l'abysse, une activité à laquelle tu t'apparentes.
J'aurais aimé arriver jusque-là. C'est-à-dire que j'ai en parlant avec lui, Guido Van Rossum, ou en lisant, ou en discutant avec d'autres, découvert qu'il y avait une esthétique du code. Et que c'était comme dans toutes les activités, il y a un style, en fait. Il y a un style plus ou moins beau, plus ou moins à l'économie, plus ou moins surchargé. Enfin, voilà, c'est à peu près les mêmes catégories que dans les autres formes artistiques. Enfin, les autres... dans les formes artistiques. Et donc, je ne crois pas que je sois capable d'arriver à ce stade-là et donc à capter un tant soit peu ce que c'est que l'esthétique du code. Donc, ça relativise et ça limite un peu ma possibilité de m'identifier à quoi que ce soit. Non, je crois qu'il y a en fait, de ma part, une fascination qui est toute... elle perdure pour cet état de concentration. Je crois que c'est ça en fait qui me plaît le plus, peu importe ce qu'ils font, et sans doute même à 42, il n'y a vraiment pas que des génies, quoi. C'est aussi de la main d'œuvre qualifiée, voilà, tout simplement. Mais j'adore cet état de concentration et qu'on puisse oublier le reste du monde. Et je crois que moi aujourd'hui, quand j'écris, je n'atteins plus jamais ça. Je suis tout le temps déconcentrée, je suis tout le temps parasitée. Et en fait, j'enrage intérieurement. Et voilà, c'est comme ça, j'y peux rien. Mais c'est sans doute une forme de nostalgie.
Vous aviez une deuxième question, Jacob.
Oui, la deuxième question, c'est plus... on a parlé d'un passage où vous construisez Léa avec Enzo, donc une intelligence artificielle. ChatGPT essaye d'écrire un roman. Ça marche pas très bien, c'est même ridicule, mais bon, Enzo et Boris sont plus optimistes sur le fait qu'un jour l'IA y arrivera. C'est pas la question que je veux poser parce qu'elle est trop biaisée, on a envie de répondre non. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est aujourd'hui, si on apprenait que Anna Karenine, que tu essayes de lire, on apprend qu'en réalité Tolstoï c'était une IA, qu'est-ce que tu ferais?
Je crois que ça change tout, en fait. C'est-à-dire que la vraie question, c'est ça. C'est-à-dire, si demain, ChatGPT écrit un roman qu'on trouvera formidable, si on sait que c'est une machine qui l'a écrit, est-ce que l'émotion est la même pour le lecteur? Je ne crois pas. Alors, j'espère que non, mais j'ai l'impression que ce qu'un lecteur reçoit, c'est aussi l'habileté d'un écrivain, c'est l'effort qu'il a fourni, c'est la virtuosité, c'est la recherche. Et si c'est une machine qui produit tout ça en 2 secondes et demie, où est l'émotion? C'est comme Kant, quand il avait entendu, je crois, un chant, il pensait que c'était un rossignol, et en fait, il découvre que c'est un pipeau qui joue. Et en fait, ça lui casse toute son émotion. Et je me dis que si une machine fait aussi beau, je ne sais pas quelle valeur aura cette beauté.
Justement, c'est une transition parfaite pour parler littérature, beauté, appelons ça comme ça, esthétique. On a un deuxième personnage du roman, donc sur ce plateau. Je vais vous le présenter en lisant tout simplement le passage qui peut-être lui ressemble. Marion est une créature désuète, sortie d'un roman de Gide ou de Beauvoir. Elle est éloquente, gracieuse. Elle dit, par exemple, que Proust la requiert tout entière. Personne ne parle comme elle. Les algorithmes ne l'intéressent pas. Elle dit « Je sais, mais je préfère ne pas. » Comme on énonce une liberté fondamentale. Elle ne regarde jamais de série et me redonne illico l'envie de plonger dans 40 romans épais. Elle lève les yeux quand on lui dit que l'intelligence artificielle connaît mal la littérature. Elle ne jubile même pas. Elle s'en fiche. Elle campe sur son latin et son grec avec une vaillance qui m'épate. C'est elle qui devrait apprendre à coder. C'est elle qui connaît si bien les traces, les signes, qui relierait à merveille l'antique et le numérique. Et dès que j'essaie d'aborder le sujet, Marion m'oppose son « je sais, mais je préfère ne pas ». Poursuit sur telle pièce qu'elle a vue au théâtre, une nouvelle inédite de James qui vient de paraître. Elle avance même un argument auquel je ne m'attends pas. Alors, Marion, c'est peut-être vous, Marie, donc Marie Fontana Viala. Vous enseignez les lettres modernes et classiques au lycée Lamartine à Paris, en classe préparatoire. Et vous êtes engagée dans la diffusion vivante de la littérature de l'extrême contemporain, auprès des étudiants, mais aussi des professeurs. la littérature de l'extrême contemporain, qu'est-ce que c'est ?
Bien placé pour le savoir.
Du tout.
Non, enfin... J'ai effectivement un objet de départ qui sont les langues anciennes, le latin et le grec. Et puis après, dans ma carrière, à des moments, j'ai commencé à lire moi-même beaucoup de l'actuel, de ce qu'on appelle l'actualité littéraire, et à trouver que c'était aussi un champ très vaste, très déroutant, et que beaucoup de gens, y compris des gens qui enseignaient la littérature, le méprisaient parce qu'ils considéraient que c'était moins bien qu'avant ou que c'était toujours la même chose, etc. Et j'ai eu envie de m'intéresser à ça. Et donc, je n'ai pas pu m'y consacrer tout entière puisque j'ai des heures à faire et sur la littérature latine notamment. Mais je me suis un petit peu intéressée à ça comme lectrice plus que comme prof. Et je me suis rendu compte que c'était quand même un objet tout à fait particulier. Et qu'on ne pense pas de la même manière qu'une littérature qui serait celle, par exemple, du 1er 20e siècle. Que le fait, c'est un élément parmi d'autres, mais le plus simple, enfin le plus évident, le fait que les auteurs soient vivants, fait qu'on ne peut pas considérer l'objet de la même manière. Le fait qu'on soit contemporain de l'écriture... soi-même, qu'on puisse se représenter, par exemple, qu'on puisse imaginer que tel romancier ou tel poète a écrit tel texte parce qu'il s'enquiquinait chez lui pendant le confinement, ça donne aussi une approche de la lecture. Voilà. Et donc, cette littérature, l'appréhender à la fois de la même manière qu'une littérature du XVIIIe siècle ou du début du XXe siècle, mais aussi comme un objet spécifique qui suppose des réflexes, de désactiver certains réflexes, d'en trouver d'autres, je trouve que c'est quelque chose de passionnant. Voilà.
Est-ce qu'il est passionnant de se retrouver, à son insu ou pas, personnage d'un roman ? Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive ?
Alors, c'est... Bon.
Personnage ou pas, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait ?
Non. Si, un peu quand même. Non, mais c'est vrai qu'on se connaît mieux dans le roman qu'on ne se connaît véritablement, Nathalie Azoulay et moi. Donc, elle a pris peut-être ce qui est le plus visible, ou elle a pris aussi, elle a mis en exergue ce qui l'intéressait le plus pour faire contrepoids et contre-pied à son personnage à elle. En fait, il y a beaucoup plus de rapprochements. Enfin, moi, j'adore les mathématiques. Je suis fille de mathématicienne et épouse de mathématicien. Et les mathématiques me manquent quand je n'y réfléchis.
Il n'est pas vrai que vous avez pris résolument le parti de la littérature pour ne plus croire qu'à ça, comme le personnage de Marion. Qu'est-ce que vous dites, Nathalie ? Vous dites que Marion est une lettrée devant l'Éternel. Vous dites qu'avec elle, la littérature ne peut mourir ni même ternir. Vous confirmez ?
Il est sûr que ça m'anime et que je ne suis pas sûre si j'avais, ce qui a été envisageable à un moment, fait une prépa scientifique plutôt qu'une prépa littéraire, je ne suis pas sûre que ça m'habiterait. Je ne sais pas en fait quelle mathématicienne ou quelle scientifique je serais et si ça m'habiterait de la même manière. Il est certain que je me sens habitée par la littérature et que c'est pour ça que je me lève le matin, c'est pour ça que je ne me couche pas le soir et que voilà. Mais ce qui me paraît peut-être un peu plus complexe et qui était présent dans le précédent livre de Nathalie où deux amies, une littéraire et une scientifique, échangeaient. C'est qu'en fait, pour moi, les objets scientifiques ou même technologiques m'intéressent et je reconnais dans l'appétit de Nathalie à, comme elle le disait tout à l'heure, comprendre comment ça marche. Je reconnais un appétit que je peux avoir appliqué aussi à ces objets-là. En revanche, quotidiennement, je n'ai pas, enfin, quotidiennement, moi, j'ai besoin de vivre dans les textes, et c'est ce qu'on se disait quand on préparait un petit peu l'émission. Je me sens aussi, quand je lis Nathalie, par exemple, je me sens aussi, en fait, coupable. J'ai l'impression que je me cache dans les textes, que je me sépare du monde réel au moyen des textes et que je m'abrite dans les textes, alors que parfois, des questions scientifiques ou même politique, je ne veux pas dire que j'ai aucune conscience politique, mais je veux dire que je me sens protégée dans les textes, alors que peut-être je ne me sentirais pas protégée dans des objets. Voilà. Et il y a un autre aspect qui est que pour moi, transmettre, puisque j'enseigne, je ne sais pas si je serais la même lectrice si je ne lisais pas avec l'idée que je vais alors j'aime pas tout le verbe partager, mais que je vais transmettre ces textes. Et je voilà. Souvent les étudiants me disent, mais quand vous lisez pour vous, est-ce que vous voyez tout ça? Parce qu'effectivement, ben, j'interprète à tout bout de champ. Parfois même, je voudrais désactiver ce truc de l'interprétation, du commentaire. Parfois, j'en peux plus du commentaire. Et c'est vrai que c'est devenu une seconde nature et que voilà, et qu'en fait, on crée là aussi un monde et qu'il y a beaucoup plus de points communs entre même l'intelligence artificielle comme étant un code, un langage, et la littérature qu'on serait amené à le penser. Enfin, pour moi, les deux se rejoignent. Néanmoins, c'est vrai que l'objet texte est pour moi à part et que c'est mon refuge, quoi. Enfin, c'est mon état naturel, c'est mon lieu naturel.
Merci. Avant de vous laisser poser la question que je vous ai demandé de préparer pour Nathalie, je voudrais demander à Nathalie, qu'est-ce qui reste du personnage réel après sa transposition dans un roman ? C'est quoi l'écart ?
Non, mais j'étais en train de réfléchir à ça en les regardant tous les deux, parce que je me dis, mais c'est vrai que je connais très très peu Marie, et finalement je connais pas très bien Jacob non plus, mais c'est des points de départ pour moi, c'est comme des virgules voilà, qui déclenchent quelque chose. Je les vois soit dans une attitude physique, soit Marie, c'était une conversation, je me souviens très bien, et en fait ça active quelque chose chez moi qui après les quitte, et qui se transforme, et qui se poursuit sans eux. Donc, c'est des points de départ, c'est, voilà, pour pas dire autrement, c'est des inspirations, vraiment ça. Mais ça devient des personnages, donc ça quitte les personnes.
Votre question, Marie ?
Alors, ma question. Tu disais, je veux comprendre comment ça marche, le code, et encore une fois, je comprends très bien ça. Est-ce que cette curiosité-là, cette envie-là, cette libido, ce qui est dit-là, est-ce qu'elle ne s'applique pas au livre ? Est-ce que quand tu lis un livre...
Bah oui, mais je sais le faire, ça.
Enfin, tu sais le faire. Plus tu l'as moins, appris, en tout cas.
Mais
tu
j'ai appris fait. À le faire D'accord. et, ouais. et ça n'a plus de mystère pour
je
moi.
Je m'attendais à cette réponse-là, donc j'ai une deuxième question. J'ai une deuxième question qui est vraiment une question de pur littéraire. Hein, mais il faut bien que je joue mon personnage un petit peu. Tu es aussi traductrice. Tu traduis.
Occasionnellement.
Tu traduis. Bon, depuis l'anglais. Bon. Et donc là, c'est un code aussi que tu transposes. Tu transposes un langage.
J'interprète.
Voilà, ma question c'était ça. De quel ordre est cette transposition-là ? Est-ce qu'elle est plus de l'ordre du décodage ou de l'ordre de l'interprétation ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est plus de l'ordre de la lecture ou de l'écriture, en fait ?
Bah, des deux, en fait, parce que il faut vraiment interpréter, c'est-à-dire donner le son de cette langue qu'on lit en anglais, en l'occurrence, en français, et donc il y a une distance, il y a un écart, et puis on joue pas avec les mêmes outils, les mots ont pas du tout la même allure, les mêmes tonalités, etc. Donc il faut faire des choix, il faut arbitrer tout le temps entre une forme d'exactitude qui n'est pas bonne en traduction, et puis encore une fois une liberté qui fait que ça peut dériver vers d'autres choses parce que la musique doit primer, etc. Mais par exemple, en ce moment, je fais un exercice un peu autre, c'est que je me traduis en anglais et en fait je m'interprète, et en fait ça c'est très intéressant parce que j'ai jamais fait ça et je me rends compte que l'exactitude est vraiment pas bonne à prendre et qu'il faut que je m'invente un cerveau anglophone que je n'ai pas, et je pense que d'ailleurs je vais pas arriver à ce que je voudrais, mais c'est pour rendre compte de cette distance qu'il faut parcourir et qui finalement est assez grande.
Nathalie, j'en profite. On va découvrir, enfin pour ceux qui ne connaissent pas Nathalie, la langue de Nathalie. Qu'est-ce que c'est ? Et vous me direz si c'est traduit en anglais. Je donne juste des petits bouts de phrases. Tétanisé entre deux infinis. Je ne suis plus que pathos effervescent. Ces scientifiques qui déposent leur offrande au pied du futur. Je suis dupe de mes propres alibis. Je concasse le mystère. Une pointe d'immortalité que nous ne devons qu'à nous-mêmes. Chacun son effroi. Sans sa témérité, le monde serait aussi ennuyeux qu'un thé de dame. Alors, pas la témérité du monde, mais des garçons. Ça, elle est là, la littérature. Elle est dans ces mots-là. Vous pouvez vous traduire ça ?
Concasser, j'ai essayé, par exemple. Je ne sais plus ce que j'ai choisi, mais c'était horrible. Je ne trouvais ah oui, pas. Non, mais c'est vrai que c'est difficile ben oui, et que l'anglais n'est pas du tout structuré, évidemment. Enfin, c'est une banalité de dire ça, mais qu'il faut faire avec la langue d'arrivée, quoi.
Et Jacob, vous, le scientifique, alors qui avait l'air d'être aussi quand même pas mal lettré, hein, vous êtes quand même assez éloquent, vous êtes sensible à cette beauté-là, je dirais au-delà du sens d'une phrase, à cette, j'aime pas le mot magie, c'est un peu comme impact, mais à cette magie qui fait que ça devient de la littérature, parce qu'il y a une combinaison des mots qui fait que ça va au-delà du sens.
Bah alors, oui, c'était très beau, c'était sublime. Mais en fait, ce que ça m'évoque, c'est que c'est exactement ça. Une des choses magiques de la littérature, c'est qu'on est vraiment à la frontière de ce qui est vraiment dissible de manière implacable. Là, ça évoque des choses, c'est sujet à interprétation. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental dont on aura toujours plus besoin. Parce qu'en réalité, contrairement au code qui a un langage vraiment très réglé, comme une horloge, on n'a pas le droit à l'erreur, comme tu l'expliques très bien. Là, il y a vraiment plein d'interprétations possibles, et il ne sera jamais possible de créer un code, en fait, même une intelligence artificielle capable d'aller à l'infini, parce que ça a été prouvé, en fait. Il y a un théorème qui est le théorème d'incomplétude, on a parlé de complétude tout à l'heure, je crois, le théorème d'incomplétude de Gödel, qui dit que, étant donné un cerveau, on va dire, mais une machine, autrement dit, des règles de calcul, une théorie, un langage donné, il est impossible pour cette machine de prouver, de tout prouver, tout énoncer, qui peut s'écrire dans ce langage. Deuxième théorème d'incomplétude, en particulier, le fait de prouver que le langage est consistant, c'est-à-dire que le système de preuve ne peut pas aboutir à quelque chose de vrai et de faux en même temps, rien que cet énoncé-là, une machine ne peut pas le prouver elle-même. Donc autrement dit, on trouvera toujours une frontière supérieure. Quoi qu'on crée, il y aura toujours un système plus important, plus en hauteur, qui répondra à des questions que le système précédent n'est pas capable de résoudre, et la littérature, avec des expressions qui nous laissent à réfléchir, comme celle-ci, sont toujours à la frontière pour nous aider, je trouve.
Merci. Alors, leur passe. Il reste peut-être une ou deux minutes. Je voudrais en profiter, Nathalie, donc reparler un petit peu cuisine, si je puis dire. Ce roman écrit à la première personne du singulier. Ça faisait un moment, je pense, c'est pas votre première... Est-ce que c'est une autofiction ? Je posais la question tout à l'heure à Marie qui disait que le mot même l'a hérissé.
J'ai dit c'est une question qui ne m'intéresse pas.
Ah, qui vous intéresse pas, c'est ça, d'accord.
Et, je préférerais ne pas.
Vous préférez ne pas, d'accord. Donc vous ne pas, alors. Et je demande à Nathalie, est-ce que ce retour au jeu, parce que c'est pas votre premier livre, hein, je pense que Mère agitée, c'est l'histoire d'une...
D'une femme qui a un frère.
Et sont écrits, mais c'était il y a 20 ans. Le retour aujourd'hui, après, c'est même pas un détour, ça a été une plongée dans la fiction assumée. Est-ce que c'est une façon, je dirais, de devenir peut-être plus pragmatique, entre guillemets, plus scientifique ? Ça serait idiot de dire ça comme ça, mais pourquoi ? Est-ce que c'est pour essayer quelque chose de plus impactant ? Le jeu est-il plus impactant que le heal ?
Non, c'était pour essayer, en fait. C'est-à-dire que ce que j'avais fait au tout début, c'était plus autobiographique que ça. Là, je me prends pour un personnage, et encore une fois, je crée des personnages. Donc, moi, j'assume le thème d'autofiction. Je me sens bien dedans, là. Et comme j'ai eu ce long passage par le roman, je pense que j'ai appris des choses en composant des romans et en inventant des personnages. Et donc, je me sers de tout ce que j'ai appris dans le roman pour, justement, brouiller les pistes et dire un jeu qui est tout à fait fictionné, finalement. Donc, même si on retrouve des éléments de réalité. Mais non, c'était une forme que j'avais envie d'essayer depuis longtemps. Je lis des auteurs anglo-saxons que j'aime bien, surtout des femmes en particulier, comme Deborah Levy ou comme Sigrid Nunez, bon, qui, elles, sont un peu des championnes de narrative non-fiction, comme ouais. On dit, bon, et à la première personne. Et j'avais envie de mesurer à ça. Je ne suis pas sûre que je resterai dans cette forme, je ne sais pas. De toute façon, en fait, à chaque fois, j'essaye de trouver quelque chose pour... pour avoir l'impression de faire quelque chose d'un peu nouveau. Donc là, c'était une tentative.
Oui, et puis vous tentez plein de formes différentes, hein, finalement, depuis le début. Hein. Quand on vous regarde vos premiers livres, pareil, hein, Mère agitée, ce sont des vignettes.
Ça, c'était plus facile pour moi, parce que j'avais aucune expérience, et que je pense que c'est une forme assez facile, un peu paresseuse. Il n'y a pas de composition. Et donc, après, le roman demande quand même plus d'art, au sens où il demande plus de technique. Et c'est une forme plus difficile à composer. Et après, l'autofiction comme ça, c'est pas si facile, en fait. Mais sur le plan de la composition, c'est moins difficile qu'un roman.
D'accord, bah c'est sur ces mots qu'on va vous remercier tous les trois pour cette rencontre. Je remercie de nouveau la Maison de la Poésie, Olivier Chandanson, Léni à la technique. Alors j'aurais aimé vous montrer davantage, de vous faire intervenir, mais j'ai un ordinateur qui n'était pas d'accord. Je vous invite, vous qui avez lu Nathalie ou pas lu, de vous rendre à une table qui va se trouver dans l'entrée, et la librairie EXC qui est juste en face a apporté quelques livres de Nathalie qu'elle se dispose à signer. Hein, voilà, donc vous avez votre stylo, Nathalie ?
Ouais. Bon. Moi, je voulais vous remercier à tous les trois, parce que vous avez joué le jeu, des personnes et des personnages, et Nicolas, parce que vous avez aussi joué un autre jeu que d'habitude.
Ok, mais merci beaucoup et très bonne soirée. Merci.